Bonjour, au micro Idrissa Sidoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Le président américain Donald Trump a menacé de rompre toute relation avec la Chine en raison de sa gestion du coronavirus, assurant qu'il ne souhaitait plus parler pour le moment à son homologue chinois Xi Jinping. Ils auraient pu l'arrêter, a-t-il martelé. Pékin a pour sa part reproché aux États-Unis de diffamer la Chine après que Washington l'a accusé de pirater la recherche américaine sur un vaccin. Pour l'Organisation mondiale de la santé, le COVID-19 pourrait devenir endémique dans nos communautés. Il pourrait ne jamais disparaître, y compris en cas de découverte d'un vaccin. Les autorités américaines ont lancé hier un avertissement à destination des professionnels de santé concernant une maladie inflammatoire rare, mais potentiellement mortelle, touchant les enfants et probablement liée au COVID-19. La maladie appelée syndrome multi-inflammatoire chez les enfants par les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies a pour la première fois été signalée fin avril au Royaume-Uni. Une centaine de cas, dont au moins 3 décès, ont ensuite été rapportés dans l'État de New York. Les États-Unis ont enregistré près de 3 millions de nouvelles demandes d'allocation chômage en une semaine. Au total, près de 36,5 millions de personnes ont pointé au chômage depuis mi-mars. Au Togo, un parti d'opposition a demandé hier la libération de 16 de ses militants incarcérés dans la prison de Lomé, où les prisonniers se sont révoltés cette semaine, inquiets face à la propagation du coronavirus. Le mouvement de l'opposition est représenté par l'ancien premier ministre Agbeyome Kodjo, arrivé deuxième à la présidentielle de février. Il y a 238 cas et 11 décès au Togo, selon les chiffres officiels publiés jeudi soir. Le Soudan du Sud a officiellement enregistré son premier mort du coronavirus, dont la propagation dans les camps de déplacés surpeuplés inquiète les organisations humanitaires. Ce pays, à peine sorti d'une guerre civile qui a fait en 6 ans plus de 380 000 morts et provoqué une crise humanitaire catastrophique, a recensé 231 cas, le premier le 5 avril. En République démocratique du Congo, les autorités sanitaires de la province du Nord Kivu ont indiqué jeudi qu'elles relançaient le compte à rebours de la fin de l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays pour une période de 42 jours, malgré l'existence d'une patiente en fuite. Cette période de 42 jours correspond à 2 fois la durée moyenne maximale d'incubation du virus. RDC toujours, une dizaine de civils tués par des groupes armés dans l'est du pays dans des violences au nord Kivu et en Ituri, selon des sources locales. Découverte hier des corps de 7 personnes enlevées récemment par les ADF dans la région de Beni, près de la frontière ougandaise. Et revendication par l'État islamique province d'Afrique centrale de 2 attaques et de la mort, je cite, de 10 chrétiens à Ingridé, à Iringuité et de 3 soldats congolais ailleurs dans la région de Beni. Plus au nord, en Ituri, 4 personnes ont été tuées. La milice politico-religieuse Codeco pointée du doigt. Au Mozambique, les forces de sécurité ont tué une 50aine de combattants djihadistes dans de violents combats cette semaine dans l'extrême nord du pays, selon le ministre de l'Intérieur. Il a par ailleurs confirmé que les djihadistes avaient mené une 20aine d'attaques depuis le début du mois dans la même province à majorité musulmane du Cabo Delgado. Afghanistan, le négociateur américain Zalmay Khalilzad a attribué au groupe djihadiste État islamique l'attaque meurtrière contre une maternité à Kaboul et il a appelé le gouvernement et les talibans à poursuivre le fragile processus de paix. Selon lui, ce groupe armé a mené la double attaque de mardi contre une maternité de Kaboul et auparavant contre des funérailles dans l'est du pays. Le groupe État islamique afghan a revendiqué l'attaque contre les funérailles, mais pas contre la maternité. La suite de nos informations. Abidjan concentre la quasi-totalité des cas de coronavirus en Côte d'Ivoire, 1912 dont 24 décès. Le gouvernement ivoirien a annoncé hier la levée du couvre-feu et la réouverture de ses célèbres maquis, bars, restaurants populaires, dès ce vendredi. Ekiabadou.
Après 2 mois de restrictions, ces mesures étaient très attendues par les opérateurs économiques, notamment les patrons de maquis, gros employeurs qui génèrent une activité considérable, ainsi que par les Abidjanais, réputés pour leur goût de la vie nocturne. En revanche, les lieux de spectacle, cinéma et boîtes de nuit resteront fermés jusqu'au 31 mai à Abidjan et sa région, qui compte plus de 5 millions d'habitants. Les établissements d'enseignement du primaire jusqu'au supérieur reprendront leur activité le 25 mai selon le communiqué du gouvernement. L'état d'urgence est maintenu et les frontières resteront fermées jusqu'au 31 mai, ainsi que l'isolement de la capitale économique du reste du pays où aucun cas n'a été détecté depuis le 21 avril. Par contre, la pandémie progresse à Abidjan avec une quarantaine de nouveaux cas recensés chaque jour.
Au Sénégal, l'imam de la grande mosquée de Dakar a annoncé hier que les prières restaient suspendues à cause du coronavirus, malgré la décision du président Macky Sall d'autoriser la réouverture des lieux de culte. Le point avec Abdulrahman Dia.
La décision de l'imam Elhadj Alioune Moussa Samba concerne l'une des principales mosquées de la capitale sénégalaise. L'imam de la grande mosquée de Dakar souligne que les raisons évoquées pour la fermeture des mosquées restent aujourd'hui plus valables que jamais. La mosquée omarienne aussi restera fermée jusqu'à nouvel ordre, ont indiqué ses responsables. Mercredi, l'Église catholique avait fait savoir que les prières collectives restent suspendues. Tous invoquent la persistance du risque sanitaire. Le président sénégalais Macky Sall a annoncé lundi soir un assouplissement des mesures restrictives pour lutter contre la propagation du coronavirus. Il a décidé, entre autres, la réouverture des lieux de culte fermés depuis fin mars. Le chef de la puissante confrérie des mourides, Sérimoutra Mbaké, a fait savoir par son porte-parole les modalités de reprise de la prière collective, port obligatoire du masque, lavage des mains et distanciation. Et c'est aujourd'hui, dans ce pays majoritairement musulman, la grande prière du vendredi en ce mois de Ramadan.
Ici aux États-Unis, des opposants au confinement ont manifesté jeudi à Lansing, dans le Michigan, devenu avec le Wisconsin un point chaud du débat sur la réouverture de l'économie américaine malgré la pandémie de coronavirus. Eric Manirakidza.
Dans le Michigan, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées hier matin à Lansing devant l'entrée du Capitole, siège du Parlement de cet État du nord du pays, et l'ont symboliquement bloqué avec une banderole, je cite, « Liberté ». Le bâtiment avait été fermé en prévision de la manifestation. Au moins une dizaine de manifestants habillés en tenue camouflage portaient des armes. D'autres brandissaient des drapeaux américains et des pancartes dénonçant la gouverneure démocrate Gretchen Whitmer, qui a prolongé les mesures de confinement jusqu'au 28 mai. La Cour suprême de l'État du Wisconsin voisin, saisie par des élus républicains, a annulé mercredi la prolongation du confinement et de la fermeture des commerces. Le gouverneur démocrate Tony Evers a regretté un jugement qui plonge son État dans le chaos. Le président Donald Trump a salué une victoire dans le Wisconsin. Ces deux États majoritairement conservateurs, mais dont les gouverneurs sont démocrates, sont aussi l'objet d'une âpre bataille pour l'élection présidentielle de novembre. Donald Trump compte bien les remporter, comme il avait fait en 2016.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Nigeria a revu à la baisse pour la seconde fois son budget. Le FMI prévoit une contraction du PIB de 3,4% en 2020 et vient d'approuver un financement d'urgence de 3,4 milliards de dollars pour aider le gouvernement nigérian. Ce montant est insuffisant pour le pays qui espère emprunter au total près de 7 milliards de dollars aux institutions internationales. La Chambre africaine de l'énergie soutient que la situation au Nigeria à moyen terme sera très difficile avec des licenciements et l'arrêt de plusieurs grands projets pétroliers censés voir le jour cette année. Le directeur général de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, le Brésilien Roberto Azevedo, a annoncé sa démission pour fin août pour des raisons familiales, un an avant la fin de son mandat et en plein marasme économique dû au Covid-19. Son départ prématuré ouvre la possibilité de voir un Africain à la tête de cette organisation censée faciliter le libre-échange entre pays. Son adjoint, le Nigérian Younov Frédéric Aga, est en pole position pour au moins assumer le poste de directeur général intérimaire de l'OMC. Pour terminer, le Covid-19 va coûter cette année au moins 203 milliards de dollars aux assureurs dans le monde. Ces pertes comprennent 107 milliards d'indemnisations pour l'annulation d'événements ou assurances sur les voyages, par exemple. Elles incluent aussi 96 milliards de moins-value sur les portefeuilles d'investissement en raison de la chute des marchés financiers.
Les sports à présent avec Yakuba Ouédraogo.
Bonjour à tous. L'entraîneur du Raja Casablanca, Jamal Selami, et son staff ont décidé de réduire leur salaire de 50%. Décision prise après un accord avec le bureau dirigeant. Pour le coach, cette décision s'explique par la crise financière que traverse le club et l'arrêt des compétitions depuis la mi-mars. Cette réduction de salaire court jusqu'à la fin de la période d'arrêt des compétitions. Le Raja est engagé sur le championnat de première division, la Coupe Mohamed V et la Ligue des champions de la CAF. En athlétisme, le Comité international olympique a dégagé une enveloppe de 800 millions de dollars pour faire face aux conséquences de la crise liée au coronavirus. Le président du CIO, Thomas Bach, a précisé que 650 millions de dollars seraient consacrés au report des Jeux olympiques de Tokyo à 2021 et les 150 millions de dollars iraient aux fédérations internationales touchées par la crise liée au coronavirus. Le CIO a par ailleurs adopté les dates de la prochaine session, organisée pour la première fois de façon virtuelle et qui se tiendra le 17 juillet prochain. En boxe, Anthony Joshua, détenteur des titres WBA, IBF et WBO en poids lourd, ne pourra pas défendre ses ceintures avant octobre au mieux. Initialement, le Britannique d'origine nigériane devait affronter le Bulgare Kubrat Poulev au Tottenham Hotspur Stadium le 20 juin, puis en juillet. Mais selon son promoteur Irn, il va falloir encore décaler le combat de plusieurs mois, même s'il espère bien qu'il ait lieu avant la fin de l'année. Joshua n'est plus monté sur un ring depuis sa victoire contre Andy Ruiz, qui lui a permis de s'emparer des titres WBA, IBF et WBO. En décembre dernier, en Arabie Saoudite, Irn a aussi révélé travailler à l'organisation de deux combats de réunification 100% anglais entre Joshua et son rival Tyson Fury, détenteur du titre WBC. Ici aux États-Unis, le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a déclaré que toute équipe sportive professionnelle serait la bienvenue dans son État. Les ligues échafaudent divers scénarios de reprise de leur saison, mises à l'arrêt depuis deux mois par le coronavirus. Les ligues nord-américaines de basketball NBA et de hockey sur glace, le championnat nord-américain de football MLS et la ligue majeure de baseball tentent actuellement de savoir quand et comment reprendre ou débuter leur saison respective. La Floride a déjà permis à l'UFC, plus importante ligue d'arts martiaux mixtes, d'organiser des combats le week-end passé, ainsi que ce mercredi et ce samedi. Pour l'heure, la Ligue professionnelle de football américain a prolongé de deux semaines la période d'entraînement à distance de ses joueurs, repoussant une ouverture possible des centres d'entraînement au vendredi 29 mai au plus tôt.
Écoutez VOA Afrique désormais, partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 474 de Canal Plus dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 474 de Canal+.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Parmi les 12 détenus retrouvés morts dans la nuit du 11 mai dans les locaux de la gendarmerie de Tanwal-Bougou dans l'est du Burkina Faso, figure le frère de Mokhtar Bari, le maire de la commune de Mansila dans le nord du pays. Ce matin, il explique à VOA Afrique que son frère est parti dimanche à Tanwal-Bougou et n'a été plus revu depuis. Son corps a été retrouvé avec ceux de 11 autres détenus morts dans les locaux de la gendarmerie. Le maire de Mansila, joint par Bagassikoura dans la ville de Fada, dans l'est du Burkina Faso.
Mon frère qui était avec la famille ici, lundi, il m'a appelé, il m'a dit qu'il va aller rendre visite à notre oncle à Tanwal-Bougou. Lundi matin, je n'ai pas eu ses nouvelles. Bon, moi, je me suis dit qu'il est parti. C'est son voyage. Jusqu'à 19h, il y a un cousin qui m'appelle vers 19h, me dit qu'on quitte Abdoulaye a quitté vers 12h pour aller à Tanwal-Bougou. Comme c'est 45 km pour aller revenir, mais depuis lors, ils n'ont pas ces nouvelles. Donc, moi aussi, j'ai tenté ces deux numéros, j'ai trouvé que ça ne passe pas. Bon. J'ai lancé alerte, j'ai informé mes amis. Donc, mardi soir, j'ai quitté Djoli vers 16h, arrivé à Ouaga, je continuais avec Aziz et Jambo à Fada. Et l'endemain, on est arrivé à la gendarmerie et ils nous ont confirmé que mon frère est resté dans cette affaire.
Dans cette affaire, qu'est-ce qu'ils vous ont expliqué concrètement?
Bon, c'est qu'ils ont communiqué officiellement, c'est ça, oui, ils nous ont expliqué.
Qui sont morts dans leur cellule.
Dans leur cellule.
Et vous avez pu voir ces dites cellules-là?
Bon, on n'a pas, parce que le corps était déjà amené à la morgue de Fada, donc on n'a pas été allé, bon, on n'a pas pu aller à Tanwal-Bougou. On s'est resté à Fada pour l'inhumation.
Oui, pour l'inhumation. Est-ce que vous avez pu voir le corps pour voir s'il a pu subir des sévices ou des traces de balles?
Le matin, on était à la morgue. Ils nous ont dit, bon, comme il n'y a pas d'autopsie au niveau de Fada, il faut qu'un infirmier examine le corps avant qu'on enlève. Et ils préfèrent qu'on enlève, amener au cimetière. Si on met dans le trou, peut-être qu'on va chercher à ouvrir pour identifier qui est qui.
Et c'est ce que vous avez fait?
Parmi les parents des victimes aussi, on était deux qui étaient présents. Parce que tout le monde se méfiait de venir. On a lancé appel à tous les jeunes qui sont à Fada, on s'est réunis. Et puis on allait creuser une fosse commune et puis une fosse. Pour mon frère aussi à part.
Toutes les victimes sont des peules.
Tous les 12 sont des peules. Aucun autre. Toutes les victimes, c'est Diallo, Bali, Lido, Diané. Il n'y a pas autre ethnie. Tous c'est des peules.
Est-ce que vous avez pu échanger avec les survivants?
Pour le moment, on n'a pas vu les survivants.
Est-ce que vous avez un message pour le gouvernement?
Le message que je lance pour tous les Burkinabés, c'est de faire en sorte qu'on trouve une solution pour résoudre ces problèmes.
Le maire de Mansila, Mokhtar Bari, joint à Fada.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Tchad, les fidèles musulmans observent le Ramadan avec les contraintes imposées par le Covid-19. Les mesures prises par le gouvernement pour faire face à la pandémie ont des répercussions sur les fidèles musulmans. De N'Djamena, notre correspondant André Kotmadjingar.
Au Tchad, la situation est peu reluisante. De nouveaux cas de contamination et de décès liés au COVID-19 augmentent tous les jours et les autorités de N'Djamena ne font que renforcer les mesures barrières. Les mosquées et le lieu de culte sont toujours fermes. La prière collective est toujours interdite. Quelques réactions des musulmans en N'Djamena.
Ce genre de pandémie existait aussi au temps du prophète et ses compagnons. Mais c'est Dieu qui les protège. Aucune mosquée n'est fermée. Mais le COVID-19 fait peur. Tout est bloqué et donc nous souffrons.
Avant, nous prions même en groupe dans les mosquées, en dehors de la mosquée. Il y a les visites familiales, etc. Mais avec les mesures qui ont été prises par le gouvernement, chaque personne prie à la maison avec sa petite famille.
La fermeture des marchés et l'instauration du couvre-feu doublé de l'état d'urgence sanitaire rendent la vie de plus en plus difficile aux familles démunies qui survivaient grâce au commerce informel.
La situation est intenable. Les ménages qui survivent à travers des petits commerces tirent le diable par la queue parce que les marchés sont fermés. Certains commerçants qui ont tenté d'ouvrir leur boutique font souvent l'objet d'arnaques des agents de sécurité. Franchement, le coronavirus a tout gâté.
Nous sommes dans une situation un peu insolite, sauf les commerçants qui vendent les denrées alimentaires, qui sont autorisés à vendre, et les autres sont restés à la maison. Donc ça ralentit un peu aussi l'économie du citoyen.
D'autres apprécient ces mesures barrières qui, pour eux, visent à protéger les citoyens contre cette pandémie. Cependant, ils demandent au gouvernement d'aider les familles les plus vulnérables.
C'est pour éviter la contamination communautaire que le gouvernement a interdit la prière collective. Donc c'est pour notre bien. Mais que le gouvernement pense aux plus démunis en leur distribuant des vivres pendant ce temps de carême. C'est difficile, mais j'invite mes frères à patienter car toute chose a un début et une fin.
On ne travaille pas et on n'a rien à la maison, donc c'est un peu compliqué. Le ramadan, c'est un devoir religieux, on peut l'accomplir. On ne peut pas, à cause de cette maladie, suspendre le ramadan dans cette condition qui s'avère un peu très compliquée pour les autres. C'est un devoir qu'on peut accomplir.
Le secrétaire général et vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Abdoul-Daïm Abdallah Ousmane, invite les fidèles à la retenue.
Aujourd'hui, on constate qu'il y a des fidèles qui partent de gauche à droite pour demander à faire leur rupture du chef. Au nom du gouvernement tchadien, le président de la République a pris des mesures d'accompagnement pour aider la population. Quelques associations qui distribuent des aides aux gens démunis de tout savoir un peu aider les pauvres qui sont les fidèles. En tout cas, notre conseil, il faut avoir la patience.
Avec cette évolution, l'on s'achemine inévitablement vers le renouvellement de toutes les mesures barrières. Sinon, d'autres mesures doivent être annoncées pour faire face à cette pandémie au Tchad si la chaîne de contamination n'est pas rompue. André Kodumadingar N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Cameroun, les guérisseurs se disent débordés par le nombre de personnes à la recherche de médecine traditionnelle pour la prévention ou le traitement du coronavirus. Mais les médecins mettent en garde contre l'utilisation des plantes médicinales pour traiter cette maladie. Le pays a enregistré plus de 2500 cas de COVID-19 et 121 décès. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé, repris ici par Nathalie Barge.
Dewa, un guérisseur traditionnel de Kumba dans le sud-ouest du Cameroun, affirme que ses centres de soins à travers le pays reçoivent des centaines de personnes depuis l'apparition du coronavirus en mars. Il s'exprime via une application de messagerie.
Qu'il y a plus de personnes qui font recours à nos services aujourd'hui parce qu'ils se disent que s'il arrive qu'un fléau comme ceci ne parvienne pas à être remédié par la médecine conventionnelle, de plus en plus on trouve des solutions du côté de la pharmacopée africaine. Il n'y a pas de maladie incurable. Une fois que les recherches sont vraiment sincères et approfondies dans la forêt,
sa consœur Diane Sop, guérisseuse traditionnelle à Yaoundé, affirme également avoir reçu le mois dernier plus de 200 personnes cherchant un traitement pour le coronavirus.
Le traitement, il faut l'appliquer quand on est encore en début de maladie. Il est vraiment efficace. Les gens partent de Yaoundé, les gens viennent de Bafoussam, de Déa, partout. Parce qu'actuellement, là, il y a 10 malades en haut, il me faut 10 flacons. Et là, j'ai moins de 10 flacons.
Les médecins et le gouvernement camerounais ont exhorté la population à ne pas compter sur la médecine traditionnelle pour traiter cette maladie et à se faire soigner dans les hôpitaux. Marilyn Perrou, pharmacienne à Douala, note que de nombreux Camerounais ne vivent pas à proximité des hôpitaux, tandis qu'ils ont un accès facile à la médecine traditionnelle.
Il faut savoir que quand vous arrivez dans une pharmacie, vous avez beaucoup de médicaments et la majorité de ces médicaments sont inspirés de la médecine traditionnelle ou des plantes de nos ancêtres. Les preuves qu'ils demandent, ce sont les preuves modernes. Depuis que l'homme est sur Terre, il s'est soigné avec la médecine traditionnelle. En médecine traditionnelle, il y a des problèmes de conservation, il y a des problèmes d'un dosage scientifique par toute la communauté de tradis praticiens.
Le ministère de la Santé a publié un communiqué mettant en garde contre les charlatans, affirmant qu'ils peuvent traiter le coronavirus pour exploiter financièrement les personnes qui cherchent de l'aide. Gidium Peliego, chercheur en médecine traditionnelle africaine, estime que les autorités devraient s'efforcer d'identifier les herbes ayant un certain potentiel pour aider à développer un remède.
Nous avons besoin d'une aide financière et morale. Ce n'est pas le moment pour nous de continuer à douter de ce que la médecine traditionnelle africaine peut faire. Ce qui nous intéresse le plus maintenant, c'est de parvenir à sauver la population qui souffre dans le monde.
L'Organisation mondiale de la santé souligne que l'utilisation de produits qui n'ont pas fait l'objet de recherches approfondies peuvent mettre les gens en danger. Dans une déclaration du 4 mai, l'OMS a déclaré que les médicaments non testés et non certifiés donnent un faux sentiment de sécurité et détournent l'attention des mesures adaptées telles que le lavage des mains et la distanciation physique.
Au Zimbabwe, l'eau insalubre aggrave les risques liés au Covid-19 selon des organisations humanitaires. Ces ONG estiment que la lutte contre la pandémie est compliquée par la grave crise dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Jacques Aristide.
Un camion-citerne arrive dans la ville de Chitungwiza. Un jeune garçon court sur le chemin de terre et donne l'alerte. Violette Manuel quitte hâtivement les funérailles de son oncle. La Zimbabwéenne de 72 ans se précipite chez elle à quelques mètres de là, saisit deux bidons et se dirige vers le terrain de football. Là, un groupe de boxeurs professionnels, désormais en charge de la distribution d'eau, ont du mal à convaincre des dizaines d'habitants d'observer la distanciation sociale alors qu'ils prennent d'assaut le camion-citerne. Pour Violette Manuel, qui porte sur le dos son petit-fils de 2 ans, les gens n'ont pas le choix.
Ils étaient sur le point de nous offrir le déjeuner aux funérailles, mais je savais que je devais courir dès qu'on a annoncé l'arrivée du camion-citerne. Et oui, j'ai pu avoir de l'eau, mais il y a de fortes chances que j'ai aussi attrapé la maladie. La distanciation sociale ici, impossible d'éviter de se bousculer. Tout le monde veut de l'eau.
Les 40 litres qu'elle a pu se procurer ne serviront toutefois pas au lavage régulier des mains, mais plutôt à des tâches qu'elle dit plus importantes, telles que pour faire la vaisselle et remplir la chasse d'eau des toilettes. Les scènes dans cette ville zimbabwéenne d'environ 500 000 habitants mettent en exergue les difficultés liées à la mise en œuvre des mesures recommandées pour endiguer le coronavirus dans les agglomérations et les camps de réfugiés en Afrique. En revanche, dans le quartier de Matererini, à Harare, la distanciation sociale est pratiquée à un point d'eau de Médecins sans frontières. Stanley Chimwaza est un habitant du quartier.
Nous remercions MSF pour ces points d'eau parce que nous avions désespérément besoin d'eau. Mais la faim nous frappe surtout en cette période de Covid-19. Nous pouvons mourir à la fois de malnutrition et de Covid-19. Nous avons donc besoin de nourriture.
L'ONG Human Rights Watch demande au gouvernement zimbabwéen d'inclure d'urgence la fourniture d'un accès continu et bon marché à de l'eau salubre et en quantité suffisante pour toute la population parmi les mesures à prendre pour lutter contre le coronavirus. 3 mois après, l'Afrique n'a pas connu le cataclysme redouté, mais l'Organisation mondiale de la santé prévient que le continent pourrait devenir le prochain épicentre de la maladie et 300 000 personnes pourraient en mourir.
c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.